écrit de Madame de Staël, troisième période. Ce fut vers la fin de 1803, après avoir publié Delphine, que Madame de Staël, exilée par la tyrannie d'un seul, comme elle l'avait été par celle de plusieurs, fit son premier voyage en Allemagne. Là, elle trouva sa réputation plus grande qu'elle ne l'imaginait. Des hommes de génie, et d'un génie analogue au sien, l'accueillirent avec transport. Les souverains se la disputèrent, et une société bienveillante applaudit à ses talents, à sa conduite politique, à son enthousiasme pour son père. Là, elle eut encore l'avantage de fixer auprès d'elle un écrivain distingué, M. Schlegel, qui lui a été également agréable par les rapports et par les différences de leurs esprits, et dont les éloges, comme les contradictions, ont sans cesse excité sa pensée. Cette année fut prodigue pour Madame de Staël de plaisir, de succès, d'idées nouvelles. Mais elle lui réservait un coup affreux. Elle la priva de son père. Je reviendrai sur ce temps désastreux, et je ne veux le considérer ici que comme l'époque d'un beau développement dans le talent de Madame de Staël. Elle avait déjà connu le malheur, les crimes de la Révolution, l'ingratitude des hommes envers M. Necker, leur injustice à son égard, d'autres peines encore avaient déchiré son cœur. Mais il est dans ces chagrins dont on accuse les autres, ou même soi, quelque chose d'âpre et d'irritant qui arrête le plein épanchement de l'âme. Elle a eu quelquefois cette verve amère et satirique qui est bien aussi un moyen de succès. Mais la grande beauté de son talent, c'était l'inspiration élevée et pathétique. Une douleur qui venait du ciel, une douleur dans l'ordre de la nature, une douleur qui tenait du sentiment religieux, devait modifier son âme d'une manière qu'on peut appeler heureuse si l'on regarde comme le premier bonheur le plus grand perfectionnement. Son esprit, sans cesse fixé sur les qualités véritablement admirables de M. Necker, le désir ardent de devenir pour ses enfants ce qu'il avait été pour elle, la lecture qu'elle faisait constamment avec eux de ses beaux écrits de religion et de morale, où des lois sacrées leur semblaient imposées par un père avec la double autorité de sa vie et de sa mort, tout concourait à produire sur elle cette impression solennelle et profonde, si propre à imprimer un cours bienfaisant à ses pensées et un grand caractère à ses écrits. Dès lors, ses opinions religieuses furent mieux prononcées, ses sentiments de piété plus constants et plus actifs. Le vague d'une croyance poétique cessa de suffire à son cœur. Il lui fallut une foi ferme dans cette promesse d'immortalité qui seule la sauvait du désespoir. En un mot, elle eut besoin d'être chrétienne parce que son père était mort en chrétien. Ces illusions des âmes tendres que tolère ou favorise avec tant de douceur une religion pourtant si pure, le sentiment d'une communication avec les amis qui ne sont plus, l'idée qu'ils nous protègent encore, que peut-être un jour ils obtiendront pour nous, comme une partie de leur récompense, le bonheur d'une réunion avec eux. Toutes ces espérances remplirent dès lors le cœur de Madame de Staël. Elles l'ont soutenue jusque dans cette longue et cruelle lutte, durant laquelle elle repoussait les terreurs de la mort, en pensant qu'elle allait rejoindre son père. Ce sont de tels sentiments qui lui ont dicté cet admirable morceau sur la vie privée de M. Necker, qu'elle a imprimé à la tête des manuscrits qu'il avait laissés. Parmi les amis de Madame de Staël, qui ont rendu un hommage public à sa mémoire, un écrivain aujourd'hui bien célèbre, M. Benjamin Constant, a signalé le mérite extraordinaire de cet écrit, en disant qu'aucun des ouvrages de Madame de Staël ne peut la faire aussi bien connaître. Il est vrai que celui-là est unique dans son genre. C'est peut-être la seule fois qu'on ait vu un talent de première force, aux prises avec une douleur réelle, la peindre si involontairement. Non seulement elle ne cherche à tirer parti de son affliction pour aucun effet, mais elle ne se doute pas qu'elle l'exprime. Il y a entier oubli, Je dis plus, il y a sacrifice d'elle-même dans ce morceau. Elle se met au-dessous de sa mère, parce qu'elle veut rehausser M. Necker dans l'objet qu'il avait choisi. Elle cherche à se faire paraître légère, inconsidérée, pour que, si jamais elle a encouru quelque blâme, il ne retombe pas sur son père. Enfin, elle va jusqu'à donner à entendre qu'elle n'aurait pas eu naturellement des sentiments bien profonds, afin qu'on croie que l'impression qu'il a produite sur elle eût été plus forte sur une autre. La souffrance de son âme perce à travers chaque mot, et pourtant elle déploie une variété inconcevable de tons, de moyens, de ressources, quand elle veut faire sentir les différents mérites de M. Necker. Craignant pour lui de fatiguer de sa peine, elle essaye 1000 cordes différentes. Elle raisonne pour convaincre, elle séduit pour désarmer. Elle cherche même à amuser pour s'assurer d'être écoutée. C'est par des explosions subites que son sentiment se fait jour. Mais on voit que toute son intention est d'observer une noble réserve. La peur de nuire par de l'exagération la poursuit. Quelque chose de contenu, de timide, montre une défiance douloureuse de ses moyens de persuasion. Et ses phrases jetées, entrecoupées et comme prononcées avec une haleine trop courte, prouvent qu'elle écrivait la rougeur sur le front, tremblant de ne pas trouver le ton juste et d'exposer l'objet de son culte. Quand on a connu Madame de Staël et son père, quand on les sait réunis dans le même tombeau, ce n'est pas sans répandre des larmes qu'on pense à l'immensité de tendresse que prouve et justifie un tel écrit. Corinne ou l'Italie. Après avoir un peu soulagé son cœur par cet hommage, Madame de Staël partit pour l'Italie. Encore absorbée par la douleur, ce voyage ne lui offrait aucune perspective agréable. Et le genre d'attrait qu'il peut avoir n'était d'ailleurs pas celui auquel elle se croyait le plus sensible. Jusqu'alors, elle n'avait admiré que l'esprit. Elle n'avait étudié que le cœur humain et les livres. Bannie depuis longtemps du brillant théâtre des plaisirs et des succès de son jeune âge, elle avait, avant son malheur, vivement regretté Paris, et Paris seul semblait encore fait pour l'intéresser. Assez étrangère aux jouissances des beaux-arts, elle n'avait été que faiblement touchée par le spectacle de la nature. Les beautés champêtres n'étaient guère à ses yeux que la décoration de l'exil, la froide parure d'un séjour insipide, et elle avait pris une sorte d'humeur contre les lacs, les montagnes, les glaciers de la Suisse, dont on lui comptait la vue pour un dédommagement. Rien de ce qui n'était ni sentiment ni pensée n'avait de valeur à ses yeux. Sa disposition, à plusieurs égards, était déjà changée quand elle partit pour l'Italie. Son père était mort sans que les Français lui eussent rendu justice. Les Français lui plaisaient encore, mais dans ce moment-là, elle les aimait certainement moins. Sûre de souffrir partout, le choix du séjour lui était devenu plus indifférent, et elle devait préférer celui qui ne lui retraçait aucun souvenir amer. Elle éprouva dans ce voyage un soulagement que sa touchante superstition attribuait à l'intercession de son père. Le beau ciel, le climat heureux de l'Italie, agissait sur elle à son insu. Son âme attendrie s'ouvrait aux douces émotions. Et peut-être fallait-il qu'elle eût perdu quelque chose de son activité pour que les objets extérieurs fissent sur elle leur pleine impression. Celle qu'ils produisirent fut grande, puissante, inattendue, et elle crut découvrir pour la première fois et la nature et les arts, quand ils s'offrirent à ses regards dans leur plus splendide magnificence. Le développement de ce sentiment nouveau fut sans doute favorisé par la société de M. Schlegel. Les connaissances de ce savant dans les beaux-arts, sa manière ingénieuse et néanmoins poétique de rendre compte de leurs effets, réussirent à intéresser Madame de Staël. En vertu d'une analogie secrète, l'admiration de l'art réveilla dans son cœur celle de la nature, et les copies la ramenèrent au modèle. Peut-être y a-t-il à gagner pour le talent dans ses impressions tardives, qui opèrent une révolution subite chez un esprit déjà très exercé. Si Madame de Staël eût été sensible dès son enfance au charme des objets champêtres, ses premiers ouvrages auraient été enrichis de plus de tableaux, mais elle n'eût pas écrit Corinne. Dans la littérature proprement dite et hors du domaine de la politique, Corinne est le chef-d'œuvre de Madame de Staël. Corinne est l'ouvrage éclatant et immortel qui lui a le premier assigné un rang parmi les grands écrivains. C'est une composition de génie dans laquelle deux œuvres différentes, un roman et un tableau de l'Italie, ont été fondues ensemble. Les deux idées sont évidemment nées à la fois. L'on sent que l'une sans l'autre, elle n'aurait pas pu séduire l'auteur, ni correspondre à ses pensées. Aussi, parmi la plus riche variété de couleurs et de formes, il règne un ravissant accord et une teinte harmonieuse est répandue sur l'ensemble. Corinne est à la fois un ouvrage de l'art et une production de l'esprit, un poème et un épanchement de l'âme. Le naturel et un naturel ardent, passionné, bien que tendre et mélancolique, y perce de toutes parts. Il n'y a pas une ligne qui ne soit écrite avec émotion. Madame de Staël s'est pour ainsi dire divisée entre ces deux principaux personnages. Elle a donné à l'un ses regrets éternels, à l'autre son admiration nouvelle. Corinne et Oswald, c'est l'enthousiasme et la douleur, et tous deux, c'est elle-même. La mélancolie, attribuée dès l'origine à Lord Nelville, est une belle idée dans l'ouvrage. De là vient que la seconde partie, si lugubre dans sa totalité, ne discorde point avec la première, et cette nuance de tristesse forme un fond doucement sombre sur lequel tous les objets, et la brillante figure de Corinne en particulier, ressortent avec un singulier éclat. De là vient encore qu'un charme plus pur est répandu sur Corinne elle-même. La pitié se mêle à tout ce qu'elle éprouve. Ce n'est plus seulement une femme passionnée qui cherche à captiver. C'est un génie bienfaisant qui vient au secours de la douleur. Tout est attendrissement, jusque dans ce qui éblouit ou étonne. Il semble que des couplets très variés sont chantés sur un air charmant, mais dont l'expression est triste et pénétrante. Rien toutefois de plus animé, de plus vif, souvent même de plus riant que le coloris de l'ouvrage. Et c'est parce que la vie y est représentée avec force, dans ses joies comme dans ses peines, que la fiction entière est si belle et si frappante. La première partie, l'Italie démontrée par l'amour, est un enchantement continuel. Corinne célèbre toutes les merveilles des arts en faisant connaître à Oswald la plus grande des merveilles, Rome, empreinte du génie de tant de siècles, Rome qui a triomphé de l'univers et du temps. Elle chante la nature féconde et magnifique du Midi, les monuments du passé dans leur auguste mélancolie, les héros, les poètes, les citoyens qui ne sont plus. Tout ce que l'histoire offre de grand, tout ce que le moment présent peut inspirer de très agréable, piquant et parfois comique, à un esprit observateur, se trouve réuni dans ces paroles. Aux vues originales d'une jeune imagination, elle joint la connaissance de tout ce qui a été pensé sur les objets dont elle parle. Elle sait quelle a été la manière de juger des anciens et celle des artistes du Moyen-Âge, quelle est celle des diverses nations modernes, et elle explique, elle met en contraste tous ses points de vue avec la grâce animée d'une jeune femme qui veut avant tout plaire et se faire aimer. Une véritable instruction nous est donnée par un être sensible qui s'adresse à notre cœur. C'est avec habileté que l'auteur a repoussé dans l'ombre le commencement du voyage de Lord Nelville, afin de porter toute la lumière sur la superbe scène qui est le vrai début de l'ouvrage. Accablé par le chagrin d'avoir perdu son père, Oswald, Lord Nelville, est entré la veille dans Rome sans rien observer. Lorsqu'au matin un soleil éclatant, le bruit des fanfares, des coups de canon, le réveille. La muse de l'Italie, Corinne, improvisatrice, musicienne, peintre et femme charmante, va être couronnée au Capitole. La ville entière est en mouvement, la fête du génie est célébrée par tout un peuple. On s'associe aux diverses impressions d'Oswald lorsqu'il suit involontairement le char brillant de Corinne. Comme lui, on avait conçu des préventions contre la femme qui recherche des hommages publics. Et comme lui, on se réconcilie avec Corinne quand on croit voir, dans cette physionomie aimable, où se peint la bonté, la simplicité du cœur, unie au plus bel enthousiasme. On partage son émotion lorsque, mêlé avec la foule au Capitole, il s'aperçoit que sa noble taille, ses habits de deuil, et peut-être son expression de tristesse, ont attiré l'attention de Corinne, qu'elle s'est attendrie en le regardant, que déjà elle a eu besoin de changer le sujet de ses chants et de joindre des paroles sensibles à son hymne de triomphe. Mais à travers le trouble que ressent Oswald, son caractère se fait jour. On voit que l'idée de la patrie est celle qui disposera de lui. Quand au sortir du Capitole, la couronne de Corinne tombe, quand Oswald la relève et qu'elle le remercie par deux mots anglais, c'est l'inimitable accent national qui bouleverse toute son âme. Il avait été séduit, à présent, il est frappé au cœur. On sait qu'elle est chez lui la corde délicate, et c'est ainsi que le roman est annoncé, et que cet exorde magnifique renferme le secret du reste. Les improvisations de Corinne, qui sont censées traduites de l'italien dans l'ouvrage, y ajoute un ornement très brillant. Néanmoins, je ne sais si leur éclat avoué l'emporte beaucoup sur le charme des autres discours de Corinne. Tout ce que dit Corinne est ravissant. Dans le cercle d'amis dont elle est entourée, elle excite toujours le plus vif enthousiasme. Ses paroles, toujours attendues avec impatience, sont toujours justement applaudies. Chacun dit « Écoutez Corinne, elle vous enchantera ». Corinne parle, elle nous enchante, en effet. Et nous ne pensons pas que Madame de Staël se loue elle-même en vantant ce qu'elle a écrit, tant nous trouvons qu'elle a raison de se louer. Énorme difficulté pour un auteur que celle d'annoncer un miracle d'esprit et de tenir toujours parole, que de nous préparer à l'étonnement et de nous étonner néanmoins. Tour de force inouïe, si l'abondance, la facilité de la verve n'excluait pas l'idée du tour de force pour donner celle du prodige. Cette multitude de morceaux d'éloquence ou de tableaux charmants ne nuit point à l'intérêt de la fiction, parce que l'auteur a eu l'art de ne placer les digressions que dans les moments où la marche de l'action est suspendue, où le lecteur craint même de lui voir reprendre son cours, et où il jouit d'autant mieux d'un moment de calme qu'il sent que l'orage se prépare. La destinée de Corinne est enveloppée de mystère. Elle parle toutes les langues, elle réunit les agréments de tous les climats, et l'on ne sait où elle est née. Oswald, qui ne conçoit de bonheur que le bonheur domestique, voudrait s'unir à elle par un lien sacré. Mais auparavant, il exige sa confiance. Cette explication, que Corinne retarde d'un jour à l'autre, est redoutée du lecteur même. Il se plaît à ses promenades, à ses courses intéressantes qu'elle ne cesse de proposer à Oswald, afin de le distraire de la curiosité du cœur par celle de l'esprit. Le bonheur, mais un bonheur qui va finir, la passion qui doit lui survivre, respire dans les discours de Corinne. Plus le moment de l'aveu fatal approche, plus elle veut s'étourdir elle-même, enivrer celui qu'elle aime des plus hautes jouissances de la poésie et des arts. Il semble que des couleurs, toujours plus vives, frappent tous les objets, à mesure que le ciel devient plus menaçant, et qu'un rayon unique perce encore le nuage que la foudre ne tardera pas à sillonner. C'est après avoir monté le Vésuve avec Oswald et vu de près les torrents embrasés de la lave que Corinne remet entre les mains de Lord Nelville le cahier où elle a écrit son histoire. jamais concours de circonstances n'a été plus funeste. Corinne est anglaise. Elle n'a pu supporter la vie monotone d'une province d'Angleterre. Corinne a été destinée dans son enfance à devenir l'épouse d'Oswald lui-même. Et le père de celui-ci, effrayé de la vivacité des goûts et des idées qui déjà se développaient en elle, a tourné ses vues du côté de Lucille, la sœur cadette de Corinne. Oswald est donc blessé dans son sentiment d'anglais ainsi que dans son sentiment de fils. Il est atteint dans tout ce qui est en lui plus profond, plus enraciné que l'amour même. Dès lors, la fiction prend un autre caractère, et l'on sent qu'il ne s'agira plus que de séparation et de mort. Désormais, il n'y aura plus dans les relations d'Oswald et de Corinne que de cruels combats, que ces déchirements de l'âme, résultat de l'opposition entre des sentiments également vifs, que l'inégalité de conduite qui en est la suite, et les ménagements plus tristes que les orages mêmes. Oswald doit songer à retourner dans sa patrie, et la description du séjour qu'il fait à Venise avec Corinne au moment de la séparation est d'une beauté lugubre extrêmement originale. Je ne suivrai pas plus loin cette esquisse. Je ne puis me résoudre à retracer l'affreux voyage que Corinne fait secrètement en Angleterre, la maladie de langueur qui la consume, les noces d'Oswald avec sa sœur, dont elle est presque témoin, son retour solitaire à Florence, l'arrivée d'Oswald et de Lucille dans ce séjour, et enfin les adieux de Corinne à tous deux, adieux contenus dans un hymne sublime, véritable chant du cygne, source intarissable de larmes qui, hélas, n'ont plus à présent une fiction pour objet. La dernière moitié de l'ouvrage est tout en contraste avec la première. La couleur la plus sombre y règne, et elle offre un déploiement qu'on peut appeler effrayant du talent de peindre la douleur. C'est une fécondité extraordinaire de nuances pour graduer les impressions tristes, pour fixer, si on peut le dire, les misères fugitives du cœur. On voit d'abord un léger déclin dans le bonheur, puis une peine vague et passagère qui prend à chaque instant un caractère plus arrêté, puis le malheur dans sa force la plus cruelle, et enfin le désespoir avec son apparence plus calme, le désespoir d'un être trop doux et trop pieux pour se révolter, mais trop faible pour ne pas mourir. Étonnante et fidèle peinture qui oblige à reconnaître chez l'auteur une capacité de souffrance, aussi rare que son génie. Note. L'infortunée reine de Prusse, victime innocente des calomnies d'un homme qui, sur le trône du monde, se plaisait à insulter à la beauté et au malheur. La reine de Prusse disait qu'elle était souvent obligée de suspendre la lecture de Corinne, parce qu'elle se sentait l'âme déchirée, non pas tant par la douleur que par cette privation d'espérance qui lui rappelait son propre sort. Fin de note. Malgré cette profonde tristesse, il y a toujours une belle harmonie dans chaque tableau. Corinne, malheureuse, est toujours une muse inspirée. Et la jouissance des beaux-arts, dont l'objet est tragique, n'est jamais perdue pour le lecteur. Peut-être faut-il accepter de cet éloge une intrigue épisodique dont le théâtre est à Paris. Ce morceau me paraît sortir du ton, et le mérite qu'il peut avoir n'est pas à sa place dans l'ouvrage. On a dit que le personnage de Corinne avait quelque chose de trop théâtral pour la vraisemblance. Mais ce n'est pas une nature ordinaire que l'auteur a voulu peindre. C'est le caractère exalté d'une femme poète qui, lorsqu'elle aime et qu'elle souffre, est toujours une improvisatrice. La conscience de son talent, celle de l'admiration qu'elle excite, ne la quitte point et donne à l'expression de ses sentiments les plus vrais une couleur particulièrement éclatante. Madame de Staël, bien plus simple que son héroïne, devait pourtant mieux qu'une autre concevoir une pareille modification de l'existence. C'est même cette inspiration portée sur l'univers extérieur comme sur les affections de l'âme, qui met de l'accord entre la partie descriptive et la partie romanesque de la composition. Ceux qui jugent cet ouvrage comme un roman trouvent que le héros n'est pas assez passionné. Mais Corinne ne devait être surpassée en rien, pas même dans l'amour. Il fallait un caractère absolument différent du sien pour qu'il se soutînt à côté d'elle. Celui d'Oswald est dans la nature, et il est surtout dans celle d'un Anglais. Combien n'existe-t-il pas, principalement dans les pays sévères, de ces êtres qui regrettent tour à tour le plaisir et l'austérité, qui paraissent à la fois dominés par leurs habitudes et par le désir de s'en affranchir, et qui ne sont jamais plus près de rompre avec leurs passions ou avec leurs principes que quand on les croit sur le point de leur céder. Ce caractère, qui tenait la malheureuse Corinne dans un état d'alarme perpétuelle, était peut-être exactement ce qu'il fallait pour fixer son imagination et captiver ses pensées. Tout ce qui concerne les beaux-arts est plein d'intérêt et de mérite. Il y a une fraîcheur, une vivacité extrême dans les impressions, et pourtant une érudition ingénieuse s'y laisse entrevoir. Les idées les plus marquantes de Winckelmann, celles qui y ont ajouté d'autres auteurs allemands, celles même des érudits italiens, sont exposées par Corinne et semblent souvent renaître chez elle sous la forme de l'inspiration. Corinne, avec son enthousiasme, a tout le tact de Madame de Staël. Chez elle, l'admiration la plus vive est toujours circonscrite. Le mot qu'il exprime en marque la borne. Elle voit ce qui manque à travers ce qui est, et sans cesser de jouir de ce qui est. Je ne sais si l'on a reproché à Madame de Staël de s'être peinte elle-même dans Corinne. Peut-être n'a-t-elle pas été étrangère au désir d'affaiblir les préventions qu'on a dans le monde contre les femmes à grand talent. Peut-être a-t-elle voulu montrer, ainsi qu'elle le savait par expérience, que l'amour de la gloire ne supposait pas nécessairement les défauts avec lesquels l'opinion commune l'associe. Elle a donc créé un être semblable à elle, une femme qui unit le besoin du succès à une sensibilité profonde, la mobilité de l'imagination à la constance du cœur, l'abandon dans la conversation à cette dignité de l'âme qui commande celle des manières, et enfin la passion dans toute sa force à l'examen de soi et des autres. Cet être qu'elle a conçu, elle l'a tellement réalisé, elle lui a donné aux yeux de tous une forme si prononcée que la fiction a servi de preuve à la vérité. Et Corinne a fait enfin connaître Madame de Staël. Toutefois, une pareille vue n'a pu être que secondaire. Il ne faut pas chercher d'explication à ce qui est beau en soi. Corinne est le fruit de l'inspiration. C'est un tableau qui s'était trop fortement emparé de l'imagination de l'auteur pour qu'il n'eût pas le besoin de le tracer. Et le propre du génie est de se peindre lui-même dans ses œuvres. Ce qui est remarquable dans l'invention de la fable, c'est que le hasard n'y joue un rôle qu'en apparence. Les événements n'y font que mettre la nature des choses en relief. Aucune loi immuable n'obligeait certainement le père d'Oswald à refuser Corinne pour sa belle-fille. Mais on voit que ce père n'est là que pour représenter les pensées secrètes, les pensées inévitables d'Oswald lui-même, qui craint qu'une femme célèbre ne soit pas propre à remplir d'obscurs devoirs. Lucile et Corinne sont aussi des idées générales. Elles sont l'Angleterre et l'Italie, le bonheur domestique et les jouissances de l'imagination, le génie éclatant et la vertu modeste et sévère. Les plaidoyers pour et contre ces deux genres d'existence sont également forts. Les deux faces opposées de la vie sont saisies avec une même vivacité de conception, et une grande question est continuellement traitée dans l'ouvrage, sans qu'on s'en doute, tant l'intérêt dramatique entraîne irrésistiblement le lecteur. Il est aisé de juger que l'idée fondamentale de Delphine et de Corinne est la même. c'est toujours une femme douée de facultés supérieures qui ne peut s'astreindre à suivre la ligne que l'opinion lui a tracée, et qui est bientôt en proie aux plus cruelles douleurs, parce qu'elle s'est écartée de cette ligne. Mais, entre ces deux productions, tout l'avantage est du côté de Corinne. L'héroïne, dans Delphine, est fort spirituelle, mais elle n'a pas pour excuse des talents extraordinaires. Plus scrupuleuse que Corinne, peut-être, elle se place dans une situation plus équivoque. Elle n'a complètement ni de l'innocence, ni de l'éclat, et rien ne distrait de l'impression pénible qu'elle cause. Corinne se présente avec plus de grandeur. Elle a ouvertement rompu avec l'opinion, et sur la terre classique de l'Italie, l'oppression ne se fait point sentir. Elle ne veut avoir affaire qu'avec la gloire, et elle l'obtient. Le combat de la passion n'a rien non plus qui la dégrade. Ce n'est point cette lutte qui rabaisse toujours un peu la femme, même qui en sort triomphante. Il s'agit pour elle du mariage ou du désespoir, du bonheur ou de la mort. Il y a de la dignité dans cette alternative. Elle n'est point aux prises avec le remords, point avec l'humiliation. Elle l'est avec le cours des choses, avec le malheur, et le génie la relève. Corinne eut un succès prodigieux, un ouvrage à toutes les portées, où les artistes puisaient un nouvel enthousiasme avec de nouveaux moyens de l'exprimer, les érudits des rapprochements ingénieux, les voyageurs des directions heureuses, les critiques des observations pleines de finesse, où les âmes les plus froides s'ouvraient à l'émotion, enfin où il y avait du plaisir jusque pour la malice même dans ces portraits de nations si plaisamment caractéristiques. Un tel ouvrage, dis-je, enleva de vive force tous les suffrages, entraîna toutes les opinions. Il n'y eut qu'une voix, qu'un cri d'admiration dans l'Europe lettrée. Et ce phénomène fut partout un événement. Note. J'ai su par mon fils qui était à Édimbourg, au moment où, malgré la guerre, il y parvint quelques exemplaires de Corinne, que ce livre produisit dans cette ville si éclairée une inconcevable sensation. La société entière fut électrisée. Les métaphysiciens, les géologues, les professeurs de toute espèce s'arrêtaient les uns les autres dans les rues, se demandant où ils en étaient de la lecture. La peinture des mœurs anglaises fut trouvée parfaitement fidèle, et l'on apprit qu'il y avait une petite ville de province qui s'était choquée, parce qu'elle avait cru que Madame de Staël, qui n'en avait jamais entendu parler, avait voulu la tourner en ridicule. Fin de note. Dès ce moment, Madame de Staël n'a plus recueilli que de la satisfaction de ses travaux. L'envie lui avait pardonné sous le nom de Corinne, et elle a obtenu ce qu'il lui fallait, une admiration mêlée de sympathie, je dirais presque de faible. Elle avait surtout besoin d'intéresser, et voulait qu'on devinât ses peines. Aussi a-t-elle tracé la route à ceux qui voulaient la louer. Une franchise naturelle, une certaine modestie sur plusieurs points, la portait à repousser toute gloire qui ne lui allait pas. Et elle accueillait encore à titre de bienfait celle même qu'elle sentait mériter. Ce livre est peut-être le seul ouvrage de Madame de Staël qui soit entièrement étranger à la politique. Et pourtant l'esprit n'en convainc pas à un dominateur ombrageux qui conduisait les hommes par leurs intérêts et qui ne voulait d'autre enthousiasme que celui de la victoire. Il ne pardonnait au talent que quand il avait obtenu de lui ce mot d'éloge par lequel le talent abdiquait son indépendance, et par conséquent son pouvoir. Mais louer le despotisme, et celui qui se sert de ses plus odieux moyens pour obtenir la louange, était impossible à une âme fière. Madame de Staël se résigna donc à l'exil, et regardant les hommes distingués de tous les pays comme ses véritables compatriotes, elle alla, en 1807, à Vienne, dans le but de rassembler de nouveaux matériaux pour le grand ouvrage qu'elle préparait, le tableau de l'Allemagne, sous le rapport des mœurs, de la littérature et de la philosophie. Parmi les avantages qu'elle retira de ce voyage, elle-même comptait pour beaucoup le plaisir d'avoir embelli les dernières années d'un vieillard aimable qui avait conçu pour elle une grande affection. Elle promit au prince de Ligne de publier une partie des anecdotes qu'il avait rédigées, en les faisant valoir par une préface. Et c'était lui assurer un plein succès littéraire. Cet ouvrage, comme on sait, a fait une telle fortune qu'on a espéré en étendre la réussite jusque sur les anecdotes que Madame de Staël avait laissées de côté. Il en a donc été fait un second et même un troisième choix, qui ont dû montrer à quel point son goût l'avait bien conseillé.